excellente question pour vous. L'accumulation de bonnes actions peut-elle nous garantir notre place au ciel? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, quelle richesse on reçoit jour après jour dans le livre merveilleux de Dieu, la Bible. Et quelle joie pour moi de pouvoir entendre avec vous les enseignements du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va avoir un avant-goût du ciel, alors que la parole de Dieu va répondre aux questions que voici. Est-ce que l'accumulation de bonnes actions peut nous garantir notre place au ciel? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire pour entretenir une bonne relation personnelle avec le Seigneur Jésus? Quel sera le résultat éternel des bonnes œuvres des croyants? Qui est appelé au festin des noces de l'agneau? Est-ce qu'on peut adorer quelqu'un d'autre que Dieu? Quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre, est-ce que ça va être de la même manière qu'il est venu il y a 2000 ans? Combien de temps est-ce que ça va prendre aux croyants pour bien connaître le Seigneur Jésus? Les croyants pourront-ils mieux se connaître les uns les autres une fois rendus au ciel? Demeurez des nôtres, nos réponses ne vont pas tarder, elles nous seront toutes données par les Saintes Écritures, par la puissance du Saint-Esprit et par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour ton esprit qui ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ta parole. Touche-nous profondément aujourd'hui, transforme nos vies, on s'attend à toi. Amen. À toi Régent.
Merci Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la robe de la mariée était constituée des œuvres justes des saints. Plusieurs chrétiens ne semblent pas savoir précisément quelle relation existe entre le salut par la foi en Jésus-Christ et les bonnes œuvres qui, selon Éphésiens chapitre 2 verset 10, sont préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Sauvés pour de bonnes œuvres. Nous pouvons commencer à saisir la distinction avec le principe suivant. Le chrétien n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. En d'autres mots, ce n'est pas l'accumulation de bonnes actions qui nous garantit notre place au ciel. Pour être assurés de son salut éternel, nous devons d'abord recevoir personnellement Jésus-Christ dans notre cœur. Par la foi, nous acceptons que seul le sang de Jésus-Christ, versé pour nous sur la croix, parvient à rembourser la dette de nos péchés. Après avoir été sauvés, nous commençons une relation personnelle avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Or, l'entretien de cette relation, comme toutes les autres relations interpersonnelles, dépend des efforts que nous sommes prêts à investir afin de la nourrir. Après avoir été sauvés, certains chrétiens ne font aucun effort pour servir Jésus-Christ. Leur raisonnement est celui-ci. « Je suis sauvé et j'irai au ciel de toute façon, alors pourquoi s'en faire ?» D'autres chrétiens, au contraire, s'emploient à approfondir leur relation avec leur Seigneur en accomplissant sa volonté. Il aborde lui-même ce sujet sans détour dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 14. « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Cela n'a rien d'étonnant. Si nous avons des amis et que nous tenons à les garder, nous agirons de manière à leur plaire et nous éviterons d'agir de manière à les froisser. Et si nous agissons ainsi envers des amis aussi pécheurs que nous-mêmes, à bien plus forte raison devrions-nous agir ainsi envers notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous. Nous n'accomplissons alors pas sa volonté par peur d'aller en enfer, mais parce que, ayant obtenu l'assurance d'aller au ciel, nous voulons lui prouver notre gratitude et notre amour en accomplissant sa volonté. En lui obéissant, nous approfondissons ici-bas et maintenant la relation que nous avons commencée avec lui en le recevant personnellement comme Sauveur et Seigneur. La richesse d'une relation. Il existe une autre bonne raison d'obéir à Dieu. nous investissons pour l'avenir. Certaines personnes investissent dès leur jeunesse pour pouvoir vivre une retraite dorée. À combien plus forte raison devrions-nous investir dès notre jeunesse pour nous assurer une éternité dorée? Une fois de plus, Jésus nous enseigne comment nous y prendre. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question est de savoir, comment vous présenterez-vous devant votre Seigneur le jour des noces de l'agneau? Nu ou revêtu d'une somptueuse robe de mariée? En d'autres mots, quelle importance accordez-vous à cette occasion? L'apôtre Paul abonde dans le même sens. Les chrétiens construisent tous sur un même fondement, à savoir leur foi en Jésus-Christ. Mais ensuite, ils ont le choix des matériaux avec lesquels ils construisent sur cette base. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 14. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Les impies seront jugés pour être condamnés parce qu'ils n'auront pas cru au nom du Fils de Dieu. Les croyants, eux, étant déjà sauvés par leur foi, seront jugés pour être récompensés. Et cette récompense dépendra de leurs bonnes œuvres sur la terre. Comme le dit l'apôtre Paul, l'or, l'argent et les pierres précieuses survivront au feu du jugement, mais le bois, le foin et le chaume s'envoleront en fumée. Notre robe de mariée sera décorée avec nos bonnes œuvres. Cette robe servira à glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons déjà vu les vieillards déposer leur couronne aux pieds de l'agneau en proclamant que lui seul était digne. L'Église révélera la gloire du Fils de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions des pécheurs orgueilleux et égoïstes. Dieu a fait de nous des ambassadeurs de son amour sur la terre et dans les cieux. Nous révélerons la gloire de son amour. Soyons clairs là-dessus. Par nous-mêmes, nous n'avons rien à faire au ciel. » Et nous ne méritons pas tant de générosité. Nous irons au ciel non pas à cause de nos bonnes actions, mais parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ et par le fait que nous lui appartenons maintenant. Et rien ni personne ne pourra briser ce lien d'appartenance avec lui, pas même la mort. Cette relation entre Jésus et son Église est douce, différente et délicieuse. Aucune autre créature n'expérimentera un tel bonheur au ciel. Et si le chrétien décide d'obéir à Jésus ici et maintenant, il expérimente cette joie dès maintenant. Une invitation au festin. Apocalypse chapitre 19, versets 9 et 10. L'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer. » Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Écoutez bien ceci. Le mariage de l'agneau aura lieu au ciel, mais le festin de noces se tiendra ici, sur la terre. Nous en avons la preuve dans la parabole des 10 vierges, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Vous voyez, ces 10 vierges n'étaient pas l'épouse. Jésus-Christ n'a qu'une seule épouse, et c'est l'Église. L'époux reviendra sur la terre pour son repas de noces. Il ne reviendra pas seulement pour juger la terre, mais pour célébrer ce repas de noces. et les 10 vierges figurent sur la liste d'invités. Nous voyons une autre représentation de cet heureux moment dans le psaume 45. On y voit la venue de Jésus-Christ en tant que roi. Son identité n'est pas révélée, mais on aperçoit la reine au verset 10. « Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » À mon avis, il s'agit d'un symbole préfigurant l'Église. On y voit aussi des invités au verset 13. « Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. » Le repas de noces aura donc lieu sur la terre. Les invités sont les 144 000 Israélites et les élus des autres nations qui auront reçu le sceau de Dieu. Quelle joie! Quelle extase! L'ange pose ensuite le sceau de Dieu sur cette scène avec les paroles suivantes. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Après avoir effectué son travail de chroniqueur, l'apôtre Jean ressent le besoin de se prosterner aux pieds du messager angélique. Toutefois, ce dernier l'en empêche. Il lui rappelle son statut de créature semblable à celui de Jean. Or, seul Dieu doit être adoré. Quel contraste avec l'attitude de Satan et de ses démons qui recherchent l'adoration des hommes comme un héroïnomane recherche sa drogue. Satan, ses démons et ses deux bêtes désirent ou désireront tous être adorés. Et aujourd'hui même, plusieurs hommes sont pris du même désir. Ils veulent prendre la place de Dieu. C'est toujours la même vieille ruse de Satan, celle qu'il a employée au tout début dans le jardin d'Éden, tel que décrit dans la Genèse, chapitre 3, verset 5. Vous serez comme Dieu. Donc, après les noces de l'agneau dans le ciel, le prochain événement au programme est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Nous pouvons nous réjouir à cette pensée, mais nous devons nous rappeler qu'auparavant, l'Église devra être enlevée et la terre devra subir la grande tribulation. Cela devrait nous encourager à témoigner de la grandeur de notre Dieu avec une énergie renouvelée. Et quand notre Seigneur reviendra sur la terre, son épouse, l'Église, l'accompagnera. Le repas de noces se tiendra sur la terre comme nous l'avons déjà vu. Quel jour glorieux cela sera! Si nous pouvions seulement arracher notre regard de la boue terrestre afin de le fixer sur les gloires éternelles! Le retour du Seigneur en tant que roi. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 et 12. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Quelle scène émouvante! Tous les événements du monde passé, présent et futur se dirigent vers cette apothéose, ce moment d'une intensité incomparable où Jésus-Christ reviendra sur la terre. Prenons un moment pour rappeler où ce tableau prend sa place dans le programme de Dieu. À partir des chapitres 4 jusqu'à 18, nous avons été plongés dans l'atmosphère lugubre de la grande tribulation. Celle-ci prendra fin lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre pour y établir son royaume. Plusieurs chrétiens entretiennent des idées assez simplistes au sujet de cet événement futur. Ils s'imaginent qu'un jour, tous les morts ressusciteront. Les bonnes personnes seront placées d'un côté du Seigneur et les méchants de l'autre. Jésus lui-même triera les brebis des boucs. Les uns entreront au ciel et les autres seront jetés en enfer. Ensuite, l'éternité commencera. Or, nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu sans prendre conscience du plan ou du programme de Dieu pour l'humanité. Ce plan qu'il suit scrupuleusement, nous avons déjà jeté les grandes lignes de ce programme. Dans notre passage, Jésus-Christ revient sur la terre et il met fin à la grande tribulation avant d'établir son royaume. Le contraste entre son incarnation il y a 2000 ans et son retour futur est absolument saisissant et remarquable. George MacDonald décrit ainsi le premier événement. « Ils recherchaient tous un roi qui vaincrait leurs ennemis
et qui élèverait son peuple. Mais tu es venu, Seigneur, un enfant dans une crèche. »
Voilà comment le Seigneur est venu marcher parmi nous à la première occasion. Il était doux et humble de cœur. Il était le Sauveur venu mourir pour les pécheurs. Or, dans notre passage, nous le voyons revenir dans toute sa gloire. Son retour sera l'expression finale de la colère de Dieu à l'égard d'un monde pécheur. La rébellion de Satan, des démons et des hommes est matée, vaincue et jugée. Il met fin à toute iniquité avant d'établir son royaume de justice. Le ciel s'ouvre au chapitre 4 afin de laisser entrer l'apôtre Jean. Il est le témoin et il est chargé d'écrire ce qu'il voit. Sur les lieux, il aperçoit les vieillards qui représentent l'Église. Et évidemment, au temps de l'apôtre Jean, l'Église n'a pas encore été enlevée. Il s'agit donc d'une vision prophétique, plongeant dans un futur lointain et indéfini. Ici, au chapitre 19 de l'Apocalypse, le ciel s'ouvre de nouveau pour laisser sortir le Seigneur. Le cheval sur lequel il est monté est un animal de combat. À sa première venue, il montait un petit âne, un animal de paix et non de guerre. Le roi fidèle et véritable. Dans notre verset, le Seigneur est appelé fidèle et véritable. Il est fidèle car il est venu exécuter le programme de Dieu. Rappelez-vous du moqueur qui demandait « Où est le signe de son avènement ?» Mais à son retour, ce ne sera plus un signe. Il sera vraiment là, sur la terre, afin que tous le voient dans sa gloire. Il est fidèle et il est le seul à qui nous pouvons faire confiance. Nous pouvons nous reposer en lui. Il est appelé « véritable » car il est la vérité. Il ne se contente pas de dire la vérité. Il est la vérité. Il est le bureau des normes de la vérité. Il est le ruban mesuré de la vérité. Il est l'unité de mesure par laquelle on distingue le vrai du faux. N'est-il pas merveilleux de pouvoir placer notre confiance dans une personne qui a donné sa vie pour nous, à notre époque de propagande, de manipulation et de fausses représentations? La première fois, il est venu mourir sur une croix afin d'offrir sa vie en rançon pour beaucoup. Mais dans notre verset, il vient pour juger, combattre avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Cela nous rappelle le verset 14 du chapitre 1er où le souverain sacrificateur des cieux inspecte ses églises. Maintenant, c'est toute la terre qu'il vient juger. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Cela nous indique que, lors de son retour, Jésus-Christ ne partagera pas sa royauté avec nul autre. Il règnera en autocrate, car les hommes auront suffisamment prouvé qu'ils ne peuvent pas exercer le pouvoir avec justice et sagesse. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Quel est ce nom que personne d'autre ne connaît? Dans notre passage, on lui donne quatre noms qui correspondent aux quatre évangiles. Premièrement, il est le roi des rois. Matthieu le présente comme tel. Deuxièmement, il est fidèle et véritable. Marc le représente comme le serviteur de Dieu. L'arbre généalogique d'un serviteur n'est pas important. La question est de savoir s'il est digne de confiance. La fidélité et la vérité sont alors deux qualités essentielles. Troisièmement, au prochain verset, il sera appelé la parole de Dieu. Au premier chapitre de l'Évangile de Jean, nous trouvons ceci au verset 1 et 14. « Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quel est ce nom que personne ne connaît? Laissez-moi vous proposer cette réponse. Il correspond peut-être à l'évangile de Luc, où Jésus est présenté comme étant le Fils de l'homme. Aujourd'hui, le nom de Christ est trop souvent une source de familiarité et même de blasphème. Trop de gens traitent leur Seigneur comme s'il était un vieux copain, mais ce nom sera l'objet de notre méditation pendant toute l'éternité. Il est Jésus, le Fils de l'homme. Le connaissez-vous vraiment? Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et ici,
nous apprenons que, lorsqu'il reviendra, il portera un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Mieux connaître Dieu. L'apôtre Paul exprime le souhait suivant dans Philippiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Mais le fait d'apprendre à le connaître fera de notre expérience de l'éternité une joie complète. Il est si grand et merveilleux que cela nous prendra le reste de l'éternité pour apprendre à le connaître réellement. Ici-bas, certaines personnes nous semblent passionnantes à connaître au début, mais la fascination cède vite la place à la déception. Or, plus nous connaîtrons Jésus, plus nous serons passionnés par nos découvertes sur sa personne. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 7 et 9, Jésus nous enseigne ceci. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Un peu plus loin, dans l'Évangile de Jean, on peut lire, chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le fait de connaître Jésus-Christ se compare à une carrière d'étudiant. Lorsque nous le recevons personnellement comme Sauveur et Seigneur, nous sommes à la maternelle, et au cours de notre vie, si tel est notre souhait, nous graduons d'année en année vers une connaissance plus complète et plus approfondie de sa personne. Mon objectif de vie est de connaître Jésus-Christ davantage à chaque jour qui passe. Je me lève à chaque matin et je regarde par la fenêtre. J'élève mes pensées vers le Seigneur. Je le remercie de m'avoir donné de vivre un autre jour. Je lui confesse mon amour pour lui. Bien que, parfois, il me semble loin de moi. Je veux le connaître, et je prie son Saint-Esprit de le rendre encore plus réel pour moi. Le nom de Jésus signifie beaucoup, car la personne qui s'y rattache est grandiose. Non seulement serons-nous en mesure de mieux connaître le Seigneur de l'autre côté de la vie, mais nous serons également capables de mieux nous connaître les uns les autres. Je ne pense pas que nous nous connaissons aussi bien que cela. Il m'arrive parfois d'être mal compris et mal interprété, et je suis sûr que cela vous arrive aussi. Mais au ciel, nous connaîtrons aussi bien que nous sommes connus de Dieu. Un jour, J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, a appris qu'il était atteint d'un cancer. Durant sa convalescence, il a dû prendre un temps de repos. Cela lui a permis de s'asseoir sur son balcon et d'apprendre à vraiment connaître son épouse. Il a pris conscience, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, à quel point elle l'aimait et combien elle lui avait été fidèle pendant toutes ces années. Et il savait qu'il la connaîtrait encore mieux une fois rendu au ciel. Je regrette parfois de manquer de temps et d'opportunités de connaître mon épouse, mais j'ai la certitude que nous nous rattraperons au ciel. Quelle expérience glorieuse nous vivrons au ciel! Et dès maintenant, lorsque notre amour pour le Seigneur grandit, nous prenons également conscience du fait que notre amour les uns pour les autres s'accroît en proportion. Où en êtes-vous rendus, chers amis, dans cette relation intime et personnelle avec Jésus-Christ? Est-il devenu le Sauveur et le Seigneur de votre existence? Vous a-t-il racheté de vos péchés? A-t-il payé la dette de votre péché? Est-il mort à la croix pour vous personnellement? L'avez-vous reçu, accueilli comme votre Sauveur? Voilà le pas à faire afin de commencer à connaître ce grand Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 19, les versets 13 à 21. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Quel beau message de la parole de Dieu. Quelle joie on peut avoir en tant que croyant quand on entend toutes ces belles prophéties qui nous concernent. Mes amis, je suis tellement heureuse de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus, de son épouse. C'est extraordinaire d'avoir la certitude que je vais passer l'éternité avec mon Sauveur. Le Seigneur est tellement bon de nous enseigner qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes actions, mais qu'une fois sauvé, on peut pratiquer plein de bonnes œuvres qui sont un investissement pour notre avenir. J'ai bien aimé ça quand Régent a mentionné que, puisque l'Église du Seigneur Jésus est son épouse, eh bien notre robe de mariée sera décorée avec nos bonnes œuvres, et cette robe servira à glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, je considère ça comme une vraie récompense de penser que ce que je fais aujourd'hui va servir à glorifier mon Sauveur merveilleux. Quand on parle de récompense, je ne suis pas porté à penser à des biens que Dieu pourrait me donner, mais je suis plutôt porté à penser que la plus belle récompense sera de voir mon Sauveur face à face et de le voir glorifié par l'obéissance que j'aurai eue envers lui en mettant en pratique sa parole, en lui étant fidèle dans tout ce qu'il me commande. Il en est tellement digne, lui, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui aurait pu passer l'éternité au ciel avec son Père sans s'arrêter pour venir sur cette terre où le péché abonde, mais il l'a fait par amour pour moi. Lui qui n'a jamais commis de péché a reçu ma condamnation sur lui, afin que je puisse recevoir le pardon de Dieu et le don gratuit de la vie éternelle. Et toi, mon ami, savais-tu que c'était pour toi personnellement aussi que Jésus était venu sur la terre? Savais-tu qu'il avait payé la dette de tes péchés en entier, en mourant sur la croix, comme s'il était lui-même le plus grand des pécheurs? Mon ami, est-ce que tu crois ce que je suis en train de te dire, ou plutôt ce que le Seigneur est en train de te dire par ma petite voix un peu rauque? Mon ami, le Seigneur Jésus est en train de t'inviter à faire partie, toi aussi, de son Église, de son épouse. Si tu le veux, et si tu crois en Jésus de tout ton cœur, en ce moment même, j'aimerais t'encourager à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché, et à te tourner vers Jésus, qui est devant toi avec les bras grands ouverts pour t'accueillir. Mon ami, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Ses bras qui sont grands ouverts pour toi en ce moment sont ceux qui étaient grands ouverts il y a 2000 ans alors qu'il agonisait sur la croix, jusqu'à ce qu'il dise « Tout est accompli ». En mourant, il a payé ton entrée au ciel en entier. Tu n'as rien à payer. Tu n'as qu'à accepter Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Sais-tu ce que c'est un Seigneur? Un Seigneur, c'est un maître. Jésus, il veut être le maître de ta vie. Il veut diriger ta vie avec amour, avec douceur. Il est bon envers toi et il t'aime. Et il veut que tu le reçoives comme ton Sauveur et ton Seigneur. Fais-le maintenant. N'attends pas demain parce que tu ne sais même pas si tu vivras demain.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.